Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Le 8 juin 1795 s'achève le long calvaire du petit Louis XVII. Le jeune roi de France meurt à la prison du Temple, à Paris, à l'âge de 10 ans. Il est devenu roi depuis l'exécution de son père Louis XVI, le 21 janvier 1793. Mais que signifie au juste être roi de France lorsque l'on est emprisonné, seul au monde, maltraité et malade? Ce sont ces années d'enfer que je vous raconte dans cet épisode en deux parties. Première partie, la famille royale au Temple. À Paris, le 13 août 1792, à 16h, dans une chaleur étouffante, deux carrosses conduisent le roi Louis XVI et sa famille à la prison du Temple. Trois jours auparavant, les révolutionnaires ont pris d'assaut le palais des Tuileries où ils logeaient. Sous prétexte d'assurer sa sécurité tout en la tenant sous bonne garde, il a été décidé de transférer la famille royale dans cette ancienne tour des Templiers, devenue prison d'État depuis Louis XIV. On se fraye un chemin parmi la foule qui se presse dans les rues. Outre quelques membres importants de la suite du roi, on emmène avec Louis XVI et la reine Marie-Antoinette leur fille aînée et le petit dauphin Louis-Charles de Bourbon. Pour parcourir les quelques 400 toises, 800 mètres, qui séparent l'Assemblée nationale du Temple, il faudra 3 heures. 3 heures tant les curieux, serrés en rang compact, gênent la progression du cortège. Depuis 3 ans, la Révolution achève de jeter bas la monarchie. En déportant le roi et sa famille dans l'austère tour du Temple, on veut neutraliser le despote qui incarne 8 siècles de tyrannie. La tour du Temple domine de ses 50 mètres les toits de Paris. Depuis ses créneaux, on voit toute la capitale. Témoin impavide de la tourmente des âges, elle n'a jamais changé d'aspect depuis sa construction 7 siècles auparavant. C'est une tour carrée, bornée à chacun de ses angles par 4 tourelles rondes de moindre hauteur. Les murailles, épaisses de plus de 2 mètres, enferment 4 étages d'une 100 mètres carrés chacun. Pour Louis XVI et ses proches, l'entrée dans leur nouvelle demeure se fait dans une ambiance sinistre. Des luminaires disposés sur les créneaux et autour des bâtiments donnent à l'ensemble un aspect fantomatique qu'accentue le dénuement d'intérieurs victimes eux aussi de la tourmente révolutionnaire. Marie-Antoinette y pénètre avec effroi, se souvenant qu'elle avait participé dans ces mêmes lieux à une grande fête 4 ans auparavant, dans un luxe d'apparat dont il ne reste plus rien. « Quand reviendrez-vous ? » lui avait-on demandé. « Le plus tôt possible », avait-elle répondu. L'écho de ses pas résonne sinistrement dans cette salle vidée de son mobilier et de ses tapisseries que n'animera plus aucune danse. Le repas pris, on accompagne la famille royale dans ses nouveaux appartements. Il est près 1h du matin. Le petit dauphin Louis-Charles, épuisé, s'est endormi dans les bras de sa gouvernante. Ce petit garçon, né en 1785, est le 2e fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Les cheveux blonds, le regard bleu, sa joie de vivre enchante son entourage. Devenu dauphin à la mort de son frère, il a 4 ans quand la Révolution éclate. Choyé par ses parents qu'il appelle tendrement « chou d'amour », il n'a aucune idée de ce qui l'attend dans ce donjon. Le 19 août, la Révolution décide de purger la tour de tous ceux qui n'appartiennent pas à la famille royale. Seul le valet de chambre, Cléry, fidèle entre les fidèles, obtient l'autorisation de rester auprès de son maître. À la fin du mois d'octobre, on transfère la famille dans la grande tour. Le rez-de-chaussée est réservé aux officiers municipaux. Le premier étage, au corps de garde. Au deuxième étage, on loge le roi, le petit dauphin et le valet de chambre Cléry. Au troisième étage, enfin, la reine, sa fille et Madame Élisabeth, sœur du roi Louis XVI. La chambre du roi et du dauphin comporte une fenêtre muselée. Le jour y entre à peine. La cheminée ajoute à l'obscurité l'inconfort d'une fumée qui l'hiver peine à se dissiper et rend l'air irrespirable. Un tissu a été tendu en guise de faux plafond pour réduire la hauteur de la pièce à celle d'un entresol et obscurcissant davantage un espace déjà plongé dans la pénombre du fait des muselières placées aux ouvertures. L'escalier en colimaçon de la tourelle nord qui dessert chaque étage nécessite l'ouverture de 7 guichets ou 7 portes, groupées par 2 pour chaque palier. L'une de ces portes est en chêne riveté, l'autre en fer. Chaque porte ne doit être ouverte que lorsque la précédente a été fermée. Et la porte d'entrée, eh bien, elle est si lourde qu'il a fallu, jadis, dit-on, 50 hommes pour la mettre sur ses gonds. Le rapport du 1er novembre 1792 du Comité de Sûreté Générale consigne les moyens déployés pour garder les prisonniers. 8 membres de la commune sont désignés pour la surveillance de l'intérieur de la tour. 1 pour le roi, 1 pour la reine et 6 membres pour la suite de la famille royale. Ces 8 membres sont quotidiennement tirés au sort par groupe de 4. Il est expressément indiqué
« Les personnes qui sont de service auprès des différents otages ne doivent répondre qu'aux questions vagues et inutiles qu'on leur fait et de manière laconique. »
L'extérieur du temple est gardé par 287 hommes, placés sous le commandement d'un général, entouré d'officiers, de sous-officiers, dont 20 artilleurs à la charge de 2 canons. On a retiré aux prisonniers tout ce qui pourrait servir d'une manière ou d'une autre à correspondre avec l'extérieur et à mettre en péril la sécurité de la garde. Papier, crayon, encre, plume, rasoir, ciseaux, tout leur a été confisqué. À partir du 7 décembre, on confisque également canifs et objets tranchants, outils de manucure et de toilette, aiguilles à tricoter et nécessaires de couture. Dans les cuisines, aliments et serviettes sont examinés pour voir s'il ne s'y trouve pas quelques billets. Bientôt, couteaux et fourchettes sont également confisqués à la fin de chaque repas. Louis XVI en est outré. Comment ces gens-là osent-ils le soupçonner, lui, descendant de Saint-Louis, d'être tenté de mettre fin à ses jours? Les bâtiments extérieurs abritent la garde, les cuisines et une cantine pour les soldats, afin de prévenir toute tentative d'intrusion dans le donjon par le jardin du palais. On fait construire par le célèbre Palois, maître d'œuvre, connu pour être le démolisseur de la Bastille, un mur qui sépare les 2 bâtiments, mur percé de 2 portes. Le roi organise les journées avec une poigne et une rigueur indispensables pour repousser la mortelle tentation du désespoir. Levé chaque jour à 6 heures, il récite 10 minutes l'office des chevaliers du Saint-Esprit. Son valet Cléry l'habille, le coiffe et à 9 heures, la famille se réunit pour déjeuner. Jusqu'à 11 heures, le dauphin Louis-Charles reçoit l'instruction du père, géographie et histoire, matière qu'affectionne le maître et l'élève et pour lesquelles ce dernier présente d'extraordinaires dispositions de mémoire. Jusqu'à la confiscation du nécessaire à couture, la reine, sa belle-sœur et sa fille reprisaient les vêtements ou faisaient de la tapisserie tandis que le roi lisait Montesquieu, Buffon, Le Tasse et l'imitation de Jésus-Christ. Mais tout cela est bien fini. À midi, on sort se promener au milieu des gravats surveillés par 4 municipaux et un garde national. Louis-Charles joue au ballon avec Cléry dans la seule allée de marronniers praticable au milieu des décombres. La journée, rythmée par les repas, les séances d'instructions et les jeux, s'achève par la prière que la reine fait réciter au petit dauphin. La proximité des officiers municipaux l'oblige à prier à voix basse. La famille est constamment confrontée à la vulgarité et à la grossièreté des cerbères à qui elle adresse pourtant toutes les marques de prévenance. cette gentillesse, cette affabilité avec les bourreaux, loin d'être feinte ou hypocrite, est la marque d'une éducation millénaire et de cette hauteur sans superbe, sans morgue, sans mépris, propre à bon nombre des rois français. Elle demeurera leur manière jusqu'à l'échafaud. Cléry rapporte ce trait de caractère propre à Louis XVI. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au seuil de la mort, il a conservé ce souci de l'autre et ce mépris de son propre sort qui impressionneront la plupart de ses surveillants. Les geôliers soupçonnent en permanence et partout des complots. On ouvre les miches de pain ou les macarons, et même les noyaux de pêche pour vérifier que l'on n'y trouve pas quelques billets. On interdit les leçons d'arithmétique sous prétexte qu'elles sont, à l'évidence, un langage codé. Le petit dauphin et sa sœur font leur possible pour détourner l'attention des gardes par le chahut et l'espièglerie afin de faciliter les conciliabules de Cléry et Madame Élisabeth. On découpe les marges des livres que se transmettent les captifs, de crainte que n'y soient inscrits des messages à l'encre sympathique. On approche de la même manière le papier vierge ou les draps du feu pour vérifier que ne s'y trouve pas quelque inscription. Un garde va même aller jusqu'à décoller les pièces de bois du damier de Louis XVI. Cet esprit de méfiance contamine les gardiens eux-mêmes, n'osant plus quitter des yeux de peur que l'un trahisse l'autre. La sœur du dauphin se plaint de ces municipaux, toujours penchés au-dessus de son épaule lorsqu'elle étudie, par crainte des complots. Le petit dauphin apporte la candeur et la lumière d'un esprit enfantin dans ce carcan dont les fers se resserrent chaque jour davantage. Dans l'antichambre, il joue au volant avec sa sœur, gambade. Animé de l'infaillible instinct qui est le propre des enfants, il sait reconnaître la bonté quand elle se présente et débusquer la malfaisance avant même qu'elle ne se manifeste. On a beaucoup évoqué la vivacité de son esprit, son intelligence précoce, son humour et un esprit de charité hérité du tempérament de son père. Cléry étant tombé malade, il lutte un soir contre le sommeil pour lui remettre une potion que lui a confiée sa tante. Le valet, parvenant enfin à se présenter à lui, le dauphin lui chuchote « Il était temps que vous veniez, mes yeux se fermaient ». Ses traits de caractère semblent avoir été une constante du dauphin dès son plus jeune âge. Toujours porté à amuser et à soulager, il supporte très tôt sa propre terreur afin d'alléger le fardeau de ses parents et de contribuer autant que possible à égayer leurs jours. Si le roi se montre toujours patient et affable, la reine oppose le plus souvent aux manifestations de haine qu'elle subit un silencieux mépris. Le roi, fixant un jour ses yeux sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'on avait placardée sur un mur de l'antichambre, confie à un garde plus bienveillant que les autres
« Ce serait beau si cela pouvait s'exécuter. »
Peu de temps avant, il avait déclaré que Voltaire et Rousseau avaient perdu la France. Un des gardes présents exprimera de façon saisissante l'impression que pouvait ressentir un homme du peuple en gardant la famille royale.
« Voilà, me disais-je, une famille que j'ai vue au fait de la puissance, des grandeurs et des honneurs, renfermée dans cet humble et obscur réduit, sans qu'il me soit permis de lui témoigner la moindre complaisance. Tandis que jadis, je me serais trouvé bien honoré et bien heureux de lui voir agréer mes soumissions. »
Le même homme notera de façon pénétrante qu'il lui semblait que quelque chose d'occulte présidait au destin funeste de cette famille, à l'insu même de ses geôliers. Car en cette fin d'année 1792, la Révolution prépare la condamnation à mort de Louis XVI et celle de Marie-Antoinette. Louis-Charles ignore que moins d'un an après, il sera orphelin. Je vous donne rendez-vous sur votre plateforme préférée pour écouter la seconde partie de ce récit consacré à Louis XVII.